Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
C'est lundi, jour de chronique consti.
On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
La traduction constitutionnelle.
La question constitutionnelle.
Mais bonjour Patrick Taillon.
Bonjour Antoine.
Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. On aborde deux sujets aujourd'hui. D'abord, le projet de loi 96, le projet de loi sur la langue, là, qui refait la charte de la langue française et qui a fait l'objet, en fin de semaine, d'une manifestation assez hostile à Montréal, de la part des communautés anglophones, entre autres. Mais ensuite, on parlera de la décision unanime vendredi de la Cour suprême sur l'inconstitutionnalité des dispositions sur la défense d'intoxication volontaire. Ça, pour le dire simplement, ça, c'est les criminels qui disent « j'étais trop saoul ou trop drogué, je ne pouvais pas formuler une intention criminelle ». Alors, le projet de loi 96, Patrick, est-ce que c'est une limite aux droits des anglophones?
Oui et non. Et avant de répondre à cette question, il faut d'abord se demander qui est un anglophone.
Oui.
Il y a dans la loi, c'est toujours comme ça en matière de droits linguistiques, il faut définir qui sont les bénéficiaires des droits linguistiques. Mmh. Donc, dans les lois québécoises, il y a cette idée qu'il existe des ayants droit. Donc, les ayants droit, dans le projet de loi 96, on peut dire que c'est un peu la minorité anglophone historique.
Oui.
Ces ayants droit, ben, il n'y a pas vraiment de limite. Ils vont avoir le droit encore d'avoir des services en anglais. Ils sont visés par des exceptions. Le scolaire s'applique pas à eux. Peut-être les disposent des quotas au cégep. Je vérifie, là, mais oui. A priori, je ne connais pas de dispositions.
Parce qu'on va essayer de limiter la clientèle, la quantité là, de personnes qui vont étudier dans ces cégeps anglophones. Donc, il y a peut-être des anglophones...
Je n'ai pas vérifié l'effet que ça peut avoir sur eux. Mais
peut-être des anglophones très brillants.
Ou un peu moins brillant,
ou un
qui rentre
peu moins
pas
brillant,
dans le quota.
C'est ça qui... Ouais.
Mais à part, sous réserve de cette vérification-là, les ayants droit, eux, ils sont assez protégés par la... Ils n'ont pas de raison d'être dans la rue le samedi. Là.
Non.
Les ayants droit voient sa situation reconfirmée par le projet de loi 96. Mais il y a, de plus en plus, c'est l'échec des politiques d'intégration linguistique, il existe au Québec des anglophones qui ne sont pas des ayants droit.
Ah oui.
Et qui, évidemment... veulent assumer, vivre en anglais, c'est leur choix. Et effectivement, la politique d'exemplarité de l'État va limiter leur capacité à obtenir des services en français.
La politique d'exemplarité de l'État,
c'est un État qui veut montrer l'exemple.
C'est ça. Donc, qui veut favoriser la langue commune, le français.
Exactement.
Ça, c'est au cœur de la loi 96, du projet de loi.
Si le français est la langue officielle et commune, ben, au premier chef, il faut que l'État l'utilise, sauf exception.
Mm-hmm.
Et donc, à la question, est-ce que ça limite les droits des anglophones? Ben, il faut d'abord distinguer qui sont les anglophones.
Mm-hmm.
Et ensuite, ben, ça limite les droits linguistiques là, qui sont spécifiques, qui sont associés à la question de la langue. Ils ne sont pas limités par le projet de loi 96. En fait, s'ils le sont, les tribunaux auront le devoir de déclarer que ces aspects-là de la loi 96 sont inconstitutionnels. Donc, par exemple, les droits linguistiques prévus au vieil article 133 qui permet l'usage du français et de l'anglais.
Ça, c'est dans l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Ça date de 1867.
C'est ça. Puis ça permet d'utiliser l'anglais au Québec devant les institutions gouvernementales, parlementaires, judiciaires. C'est pas remis en question. On n'aurait pas le pouvoir de le faire.
Non.
L'article 23 de 82 qui garantit le droit à des écoles dans la langue de la minorité.
Là où le nombre se justifie.
Ouais. Ou au Québec, le nombre le justifie presque partout.
Ouais.
Et donc, ces droits-là ne sont pas remis en question. Par contre, oui, il y a une disposition de dérogation, une disposition de souveraineté parlementaire dans le projet de loi 96. Et ça, ça peut avoir une incidence sur les droits des anglophones, mais c'est pas les droits linguistiques des anglophones qui sont affectés, c'est les droits généraux. Deux exemples.
Donc on peut pas déroger à 133.
Exactement.
De la Constitution de 67. Comment ni à 23 de la Constitution de 82. Donc, ces droits-là sont garantis encore.
Ces droits-là ne peuvent pas être affectés par la dérogation. Dire que la dérogation sert à écarter ces droits linguistiques, c'est une
fausseté.
Par contre, il est vrai de dire que la liberté d'expression, qui comprend la liberté d'expression commerciale, puis on a dit que le choix de la langue d'expression dans le commerce, c'est protégé par la liberté d'expression.
Ouais.
Le droit à l'égalité, le droit à la protection contre la non-discrimination. Par exemple, un argument qui a le vent dans les voiles, hein, l'idée que forcer l'apprentissage du français... Par exemple, dans la vieille loi 101, puis c'est encore le cas aujourd'hui, pour exercer certaines professions, il faut avoir la maîtrise de la langue commune.
Mm-hmm.
Ben ça, on peut, sous l'angle là, de l'argument, l'argument qui voudrait que cette exigence du français serait une source de discrimination systémique, si on y veut mettre un peu on veut charger la chose un peu, dans la mesure où exiger l'apprentissage du français créerait une barrière. Un obstacle pour certains groupes plus que d'autres. Hein, on se rappelle notre chronique de l'automne sur les examens de mathématiques.
Ah, oui.
Si l'Ontario a déclaré que les résultats statistiquement discriminatoires des examens de mathématiques sont discriminatoires, ben, a fortiori, des examens de français, ça pourrait entrer dans un raisonnement analogue, un raisonnement qui conduirait à la même chose. Donc oui, la dérogation
même si c'est une langue officielle. Même si c'est la seule langue officielle du...
Après, il y a toujours du contexte, il y a toujours de la justification, il y a toujours... C'est pas parce qu'ils ont décidé une chose sur les mathématiques qu'ils vont décider la même chose sur la langue. Je veux juste attirer l'attention sur le fait que on ne touche pas aux droits linguistiques, mais sur liberté d'expression et droit à l'égalité, oui, en utilisant la dérogation, on écarte certaines revendications, certaines prétentions. Je dis pas que ces prétentions-là seraient un succès, je dis que le débat sur ces prétentions-là ne sera pas possible parce que la dérogation est en place.
OK.
Maintenant, si on revient à la politique d'exemplarité, il ne faut pas oublier aussi que le Québec part d'une politique qui est nettement plus généreuse que ce que la Constitution exige en termes de services en français à la
en
population.
Anglais.
Services en anglais, pardon.
À sa minorité.
Des services qui n'ont souvent pas leur équivalence dans le reste du Canada et qui ne sont pas une exigence constitutionnelle. Donc, le Québec a le droit de resserrer certains boulons. Et là, regardons comment les boulons sont resserrés. D'abord, tantôt, on parlait ayant droit, anglophone ayant droit versus anglophone qui n'est pas un ayant droit.
C'est ça. Mettons, immigrant, souvent,
c'est souvent le cas de figure, un néo-québécois, effectivement. Mm-hmm. Mais là, ici, là, il y a des inquiétudes qui s'expriment, notamment chez les manifestants en fin de semaine, mais il y a vraiment un risque de déconnexion avec le réel.
De la part de?
De la part un peu tout le monde.
OK.
Parce que là, on est en train de dire « l'État va être exemplaire ». Oui, mais ce n'est qu'un principe. Le principe connaît beaucoup d'exceptions.
Oui.
Alors, d'un côté, on a des gens qui critiquent le principe puis ne voient pas les exceptions. Et de l'autre, il y a des gens qui s'inquiètent parce qu'ils voient tellement d'exceptions qu'ils se disent « ça marchera, ça ne produira pas les effets recherchés ».
Ah oui, il y a tellement d'exceptions que le principe n'est plus vraiment appliqué.
C'est l'exception qui est là. Alors, si on regarde un peu la liste des exceptions, il y en a quand même beaucoup.
Donc, les deux camps sont susceptibles de déconnecter.
Je pense que oui. Il y a comme tout le monde regarde que ce qui fait son affaire, le principe ou l'exception.
Oui.
Et donc, les exceptions, elles sont quand même nombreuses. Là.
Oui.
D'abord, la santé. Donc, on ne parle pas du fait qu'on ne pourra pas être soigné en anglais. Là. La santé est une exception prévue dans le projet de loi.
Mais oui, puis en fin de semaine, il n'y arrêtait pas de dire dans les manifs que les soins de santé étaient à risque.
Non, c'est écrit noir sur blanc.
C'est écrit noir sur blanc.
Soyons factuels.
Bon, ben arrêtez là, avec ça. Là.
La sécurité publique, okay. Ça, c'est large. Mais ça inclut à tout le moins une arrestation policière, ça inclut des interventions de la sécurité publique, il y a une inondation à quelque part, il faut intervenir, etc. La sécurité, c'est très large.
Mais oui.
Et ce n'est pas tout. les principes de justice naturelle.
Oh.
Ça fait plusieurs décennies que je travaille jour et nuit en droit. Je n'ai pas encore tout à fait compris jusqu'où ça va, les principes
c'est
de justice
extrêmement
naturelle.
C'est
extrêmement
large, hein?
Mais ça,
ben,
ça
on sait qu'il y a odi alteram partem là-dedans.
Assurément.
Depuis Bernard Landry.
Assurément. Mais il y a certainement l'idée là, que si ne pas offrir un service en anglais à quelqu'un compromettrait... une certaine équité, c'est
ouais.
un certain sens de la justice serait profondément inéquitable à l'endroit de cette personne-là, ben, l'exception qui est prévue, le principe de justice naturelle, devrait faire en sorte que ce soit visé. Après ça, si je suis un ayant droit, c'est automatique. J'ai même pas besoin d'entrer dans les exceptions qu'on vient de voir. Si je suis un touriste, c'est automatique. Si je suis un immigrant pendant les 6 premiers mois, c'est automatique.
Non.
Mais on peut pas dire que l'immigrant au 6e mois plus un jour va... systématiquement à recevoir des services en anglais. Puisque
il y a plein d'articles dans les journaux là-dessus. Là, 6 mois là, après ça, c'est fini!
Dès que ça touche la santé, la sécurité publique ou les principes de justice naturelle, ben, normalement, la personne immigrante, même si elle est là depuis plus de 6 mois, elle devrait bénéficier d'exceptions. Donc, on peut pas... C'est beaucoup plus nuancé que ce que chacun veut dessiner comme portrait. Et d'ailleurs, la loi prévoit... que le ministre pourra ajouter par règlement plein d'autres exceptions.
Bon.
Alors, santé, sécurité, justice naturelle...
Comme on disait il y a 2 ans, ça va bien aller.
Ça va bien aller. C'est pas rien, là. Et à la fin, c'est pas évident de savoir ce qui va entrer ou ce qui n'entrera pas dans ces catégories. Ça, j'en conviens. Mais mettons qu'on adopte le point de vue inverse de ceux qui sont inquiets pour les anglophones.
Ouais.
Et que là, on adopte le point de vue de ceux qui sont inquiets pour la
le
capacité
principe.
De la loi de produire, que le principe puisse produire ses effets. Donc, la politique, le principe, c'est l'exemplarité. Grosso modo, les services gouvernementaux, ça prend 2 formes. Une forme écrite puis une forme orale. Pour la forme écrite, parce que les ayants droit y ont droit, ben, la forme écrite va continuer à exister.
Bon.
Alors,
ça va être
dit,
en anglais, les amis. Inquiétez-vous pas.
On dit à tous les fonctionnaires, écoutez, vous avez comme un devoir d'exemplarité pour intégrer les nouveaux arrivants. Fait, donnez pas la brochure en anglais. Pas sûr que ça va être aussi simple que ça. Ça va quand même être tentant de la donner. Pareil, la brochure va exister.
S'ils t'abordent en anglais, oui.
Déjà là, il y a un enjeu. Et sur les interactions orales, comment on va pouvoir vérifier que, tout à coup, un fonctionnaire bascule pas à l'anglais quand il a la liberté de juger que c'est une question de justice naturelle ou que de ne pas parler anglais insécurise? Prenons l'exemple, mettons, de l'aide sociale. Ben, l'aide sociale, ça touche à la sécurité d'une personne, dans une certaine mesure, sa sécurité financière. Alors, ça peut entrer. Puis on peut dire, non, c'est pas une sécurité au sens régalienne, policière, ça n'entre pas. Et donc, il y a toute une zone de flou.
On peut dire la même chose d'à peu près tous les services du gouvernement.
Ben oui.
De l'État.
Selon les lunettes que vous allez mettre, les lunettes roses ou les lunettes fumées teintées foncées, vous allez arriver à une lecture de ce principe et de ces exceptions totalement différente. Mmh. Et la loi a été écrite de manière à ce que à peu près chaque administration va devoir produire des directives.
Mmh.
Fait que vous soyez optimiste ou pessimiste, là, va falloir attendre les directives, mais les deux lectures sont probablement exagérés.
C'est comme une loi qui veut faire prendre conscience à l'État de l'importance du devoir d'exemplarité, mais elle est tellement souple, au fond, la loi, que
ça va générer son lot d'exceptions.
Ça va continuer malgré les directives, comme aujourd'hui. C'est l'État du Québec est sans doute le seul à être vraiment, vraiment bilingue dans tout le Canada.
Un autre petit détail. On dit la dérogation fait en sorte que la police de la langue, entre guillemets, va pouvoir procéder à des fouilles et perquisitions abusives. Elle va pouvoir violer la vie privée. Elle va pouvoir violer le secret professionnel parce qu'on a dérogé aux chartes.
Mmh.
Attention, on se calme. Quand on avance des arguments de ce type, c'est comme si on pense que tout le droit se résume dans les chartes. Puis qu'en dehors des chartes, il n'y a pas de droit.
Il n'y a plus rien.
C'est comme le secret professionnel ne serait protégé que par les chartes. Il n'y a pas de code de déontologie, il n'y a pas de droit commun. Le droit criminel n'encadre pas le travail en matière de fouilles et de perquisitions. Alors, il faut faire attention. C'est sûr que ça affaiblit la protection, mais de dire qu'il n'y a plus de protection, c'est exagéré. Donc, c'est normal, c'est un débat politique qui entre dans sa dernière phase. Les esprits
s'échauffent. Il y a de l'exagération.
Il va falloir respirer un peu, se calmer, puis laisser... Le soleil va se lever sur le Québec le lendemain de l'adoption du projet de loi 96. La vie va continuer.
Les clauses de souveraineté parlementaire, ce n'est pas la loi des mesures de guerre.
Effectivement.
Deuxième sujet, Patrick, Justin Trudeau a vu son code criminel ou une partie de son code criminel, une défense très importante en droit criminel, être déclarée anticonstitutionnelle ou inconstitutionnelle. Est-ce qu'il pourrait utiliser la clause de souveraineté parlementaire?
Il pourrait utiliser la dérogation. Peut-être qu'il n'en aura pas de besoin. Prenons peut-être une minute avant pour placer cette importante décision. En fait, c'est trois cas. Fusionné dans deux arrêts.
Oui.
Et d'abord, rare cas d'unanimité. Hein? Presque toute la saison, lorsqu'on a parlé des arrêts de la Cour suprême, on avait deux camps, des divisions fortes. Là, on a un rare cas là, où la juge Suzanne Côté est main dans la main avec la juge Martins, ou le juge Kazira est main dans la main avec la juge Brown. Les clivages habituels, ils les ont surmontés.
C'est l'harmonie à la Cour suprême.
C'est très rare. Quoi qu'en pensent ceux qui aiment se bercer dans l'illusion selon laquelle la Cour suprême ne connaîtrait pas de clivage politique et idéologique, ces dernières années, c'est rare qu'on ait eu droit à une décision unanime comme celle-là. Donc, c'est trois dossiers. Puis à chaque fois, c'est des cas d'intoxication volontaire extrême. Donc, on est dans du droit constitutionnel, mais aussi du droit criminel. Donc, on a un type qui a consommé de l'alcool et des champignons magiques. Il agresse sa voisine. L'autre, une surdose de médicaments sur ordonnance, puis il blesse sa propre mère. Et un autre qui, champignons magiques, en vient à tuer son propre père et à blesser la conjointe de son père. C'est beaucoup de cas similaires en même temps. Ça, c'est normal. La Cour suprême a choisi ces dossiers.
Okay.
Mais quand elle décide d'en entendre trois, c'est parce qu'elle a le goût de faire une mise au point sur le sujet.
Hmm.
Et là, on en fait toute une. Elle dit...
Mais mon souvenir, moi, de mon cours de droit criminel, Patrick, c'est que quand on est trop sous pour formuler une intention criminelle, oui, on peut utiliser cette défense-là ou trop drogué.
Oui.
Non?
Au fond, la défense, elle vient de la jurisprudence et de la common law. Il y a la vieille arrêt d'Avio de 1994, un cas d'agression sexuelle. Le type était trop intoxiqué et la Cour suprême le relâche en disant qu'il n'avait pas d'intention.
C'est
donc,
ça.
Dans cette décision-là, le principe, c'est qu'on ne peut pas se défendre. Ce n'est pas un moyen de défense, l'intoxication volontaire, sauf, toujours l'exception, sauf si l'accusé est dans une intoxication si extrême qu'il est, au fond, dans une situation d'automatisme. Il n'y a plus d'intention coupable, il n'y a plus de volonté.
Et...
Ça, c'est l'état de la jurisprudence. Ça choque. Le
oui.
code criminel intervient, dialogue entre le juge et le législateur.
On aime dire, ça, nous, le dialogue.
Bien sûr, on va resserrer un peu la vis. Et là, on écrit un article pour dire, attention, là, la défense d'automaticité.
On ajoute au code criminel l'article 33.1, je vois
ça.
Dans tes notes. Là.
Exactement, on va resserrer les boulons. Mais c'est ce boulon-là qui a sauté.
Il a sauté.
C'est comme si on élargit la défense d'intoxication volontaire. Pourquoi?
On le trouvait trop restrictif.
Exactement.
Les tribunaux. Ah, bon.
On dit, c'est toujours la même chose en matière de charte, on dit, ça menace votre présomption d'innocence, l'État va vous emprisonner, etc. Et là, on se demande, est-ce que c'est justifié? Puis l'étape la plus importante, quand on raisonne sur la justification, c'est est-ce qu'il y a des solutions de rechange? Et là, la Cour est quand même intéressante, elle en suggère plusieurs. Ça veut donc dire que, à la question que tu posais, probablement que Justin Trudeau n'aura pas besoin de déroger.
Okay.
Quand la Cour suprême lui a fait un petit catalogue de suggestions quant à la manière de réécrire le code criminel.
Parenthèse, dans ce temps-là, la Cour se fait presque législatrice.
Évidemment, évidemment.
C'est elle qui écrit la loi, alors que Montesquieu avait dit les tribunaux doivent être... non, le juge doit être la bouche de la loi seulement.
Le mélange des genres fait partie du droit constitutionnel.
OK, alors là, ils proposent quasiment
exactement, ils nous disent,
des nouvelles
par exemple,
dispositions.
Je donne un exemple parmi d'autres, mais si vous pouviez créer une infraction spécifique, la négligence criminelle d'intoxication volontaire, ce serait mieux que d'accuser quelqu'un d'homicide involontaire alors qu'il n'y avait pas de mens rea, il n'y avait pas de volonté. Bref, série de suggestions comme ça. Le temps file, mais quelques détails intéressants, là, un en particulier. C'est peut-être le début d'une mode, mais on voit dans la décision que la Cour suprême, à l'unanimité, parle des victimes d'actes criminels. Donc, ces hommes et ces femmes qui sont blessés, agressés par la personne intoxiquée. Mais au lieu de parler des intérêts de la victime, on parle des intérêts de la victime en termes de droits fondamentaux. On dit le droit à l'égalité et à la sécurité des personnes qui risquent d'être victimes de crimes.
Ah oui.
Un genre de langage qui parlerait peut-être à quelqu'un comme le sénateur Pierre...
Yves Boisvenu.
Oui, exactement. Parce que tout à coup, c'est comme si on dit, oui, l'accusé a des droits, mais la victime, d'habitude, elle a que des intérêts, etc. Là, tout à coup, non. On parle de concilier le droit à l'égalité et à la sécurité des personnes qui risquent d'être victimes de crimes. Il me semble que peut-être que ça explique pourquoi l'aile plus conservatrice et l'aile progressiste s'est peut-être retrouvée à l'unanimité sur un langage plus...
C'est la thèse de l'harmonie. Ça ouais. serait la source de cette nouvelle harmonie.
On n'aura pas le temps, mais l'arrêt est intéressant pour les plus curieux aussi sur la question de dans quelle mesure un juge est lié par la décision d'un collègue. On redéfinit ces questions-là. Moi, je suis juge à la Cour supérieure. S'il y a un collègue qui a décidé le contraire de ce que je veux décider il y a 6 mois, ouais. je suis obligé de respecter sa décision.
Mais ça s'appelle pas la jurisprudence?
Oui, oui.
Le stare decisis.
Exactement. Mais les plus curieux là, pourront aller lire et, et voir comment la Cour construit des marges de manœuvre.
Oh.
Moins de sécurité juridique, moins de prévisibilité, plus de marges de manœuvre. Il faut dire qu'on est dans un système judiciaire qui aime le cas par cas et qui n'a pas peur des enjeux de cohérence.
Merci infiniment, Patrick Therrion, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval.
Merci, Antoine.
Et c'est ainsi que se termine Là-haut sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.